Salut à tous, ici Zeny pour le 7ème épisode du Poké Freak Show. Alors dans cet épisode, nous allons parler d'une période de Pokémon qu'on n'a pas du tout encore abordée ici. Du coup, je vous propose un petit cadeau bonus digne des meilleurs calendriers de l'Avent pour pouvoir vous introduire cet épisode. Je vous propose un petit voyage dans le passé express. Accrochez-vous bien, nous partons ensemble en 1999. Bienvenue en 1999. Un monde toujours au 20e siècle, mais qui s'apprête à affronter le bug de l'an 2000. Les tours jumelles sont toujours debout, et la France est tout juste championne du monde. Du coup, cette année-là, on chantait Daboudi Dabouda. À cette époque, on jouait au Pog et au Bi dans les cours de récré, tout en nous gavant de têtes brûlées et de Choupa Choups. Mais cette harmonie prit fin cette année-là justement, puisque les gamins en short occidentaux troquèrent leur Pog contre des Game Boy et des jeux de cartes. Cette année-là en France, fini le jeu d'adresse et les activités sportives, bienvenue aux écrans et aux bouts de carton pour attraper tous ces monstres de poche. Vous l'aurez compris, 1999 marqua le début de la Pokémania. La Pokémania, c'est cette période extrêmement faste qui a duré deux bonnes années, où tout, absolument tout, pouvait tourner autour de Pokémon. Comme aujourd'hui, vous me direz ? Ah non, pas du tout, c'est encore pire ! Tenez-vous bien, 42% des produits de jeux vidéo et de jouets en France tournaient autour des Pokémon. C'était la folie. Des figurines, des cartes, de l'animé, les films, les disques, les magazines, les bonbons, des chaussures, des voitures, et même une ville américaine s'est renommée Topikachu pendant une journée. Tout le monde jurait à l'époque que de Pokémon. Ça rendait fous les gamins et saoulait bien les adultes. Tous les médias étaient effrayés devant ce phénomène totalement planétaire. Ah, la belle époque. Mais si ce phénomène faisait le bonheur de certains comptes en banque, il faisait tout de même le malheur d'autres personnes, et pas seulement celui des parents. Allons donc dans les studios de Game Freak, toujours en 1999. Ici, la Pokémania est plutôt vue comme un coup de pression. Alors que la génération suivante est bien entamée et n'a, à part une centaine de nouvelles têtes, pas de grosses nouveautés, on commence à avoir peur face à ce public qui aura forcément de très grosses attentes. D'autant qu'au départ, les versions or et argent devaient juste être de sorte d'add-on pour une série qui ne devait avoir que 4 jeux. Oui, selon les plans initiaux, 1999 était prévu pour être la fin de Pokémon. Mais vu la grosse avancée marketing qui était Pokémon, il était hors de question de s'arrêter maintenant. Alors les développeurs redoublèrent d'efforts pour trouver de nouvelles idées innovantes afin que la nouvelle version soit plus qu'une simple continuité. Et dans tous ces mouvements, un nom est ressorti, celui de Junichi Masuda. Alors qu'il ne s'occupait que des musiques et des effets sonores de Pokémon Rouge et Bleu, Masuda était promu co-directeur des jeux pour la programmation du second volet, justement pour redonner un coup de boost à la licence. C'est notamment lui qui a eu l'idée de s'inspirer du Kansai et du Kyoto pour ces jeux-là par exemple. Bref, or et argent sortirent au Japon à la fin de l'année 99, et fut, bien évidemment, un succès commercial et critique. Mais après ces événements, bien chaotiques et alors que la décision de conclure Pokémon fut abandonnée, une nouvelle question prit place. Comment faire durer la Pokémania sur le long terme ? Comment préparer l'avenir ? Une liste des décisions a été prise par Tsunekazu Ichinara, le producteur principal de The Pokémon Company, une entreprise fraîchement inventée. Parmi les décisions, il y a eu rallonger le dessin animé, faire des films chaque année et surtout centraliser tous les produits dérivés sous une seule bannière. Et pendant ce temps, à Game Freak, une autre chose a été lancée, le lancement de la troisième génération. Et là, on se rapproche de la thématique de l'épisode. Ce troisième jeu, qui fut nommé sous le code de Pokémon Advance en référence à la nouvelle console portable que préparait Nintendo, et qui fut nommé par la suite Pokémon Ruby et Saphir, avait une lourde tâche, celui de marquer un renouveau dans la licence. Alors que les médias du monde entier estimaient que la Pokémania commençait à prendre fin et qu'on allait bientôt plus entendre parler des monstres de poche, lol, il fallait proposer un jeu qui capturerait à nouveau le public et lancerait complètement le rythme de croisière de la licence. Et pour mener à bien cette lourde tâche, on redonne toutes les cartes à Junichi Masuda. Pour marquer le coup, du coup, il décide que les prochaines versions se passeraient dans les régions dont il est originaire, à savoir Kyushu. Kyushu est une île au sud du Japon qui possède le plus grand volcan encore en activité de l'archipel et un très grand nombre de microclimats. Bref, cela donnerait un magnifique terrain de jeu pour les joueurs du monde entier. Et qui plus est, Masuda réutilise ses vieux souvenirs d'enfance pour la construction de ce qui s'appellera plus tard la région d'Oen. Toute la nature luxuriante de la région, la construction des cabanes et des bases secrètes, et toutes les zones différentes de cette région proviennent directement de ses souvenirs de jeunesse quand il allait en vacances chez ses grands-parents. Cette belle région fut une base solide pour construire le jeu qui partait déjà avec un avantage, la nouvelle console de Nintendo. La Game Boy Advance, bien plus puissante que la vieille Game Boy que Pokémon avait sauvée, permettait aux développeurs d'aller plus loin dans leur imagination. On commençait alors à imaginer des Pokémon avec plus que 4 attaques, ou des équipes de plus de 6 Pokémon. Finalement, ce nouvel espace a été utilisé pour amplifier les graphismes colorés ainsi que les PC. Mais il y a d'autres nouveautés marquantes, les bases secrètes, les combats doubles, les concours Pokémon, l'amélioration de l'élevage, le fait que certains Pokémon aient des formes, l'arrivée des capacités spéciales qu'on appellera plus tard les talents, ou encore une amélioration du scénario puisque cette fois on devait affronter deux teams, la team Magma et la team Aqua. On avait également droit à des PNJ beaucoup plus travaillés, du genre Norman, un champion d'arène qui était en réalité votre père. Bref, des améliorations clés dans la continuité des jeux principaux de la licence, qui a bien pu installer Pokémon comme un incontournable pendant plusieurs années, puisque la version Saphir est à ce jour la meilleure vente sur Game Boy Advance. Mais il y a une amélioration qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Une amélioration qui, on peut le dire, a été pleinement utilisée à Hoenn et qui avait vraiment sa place dans un jeu avec autant de climats différents. Donc autant dire que si cette amélioration existe, c'est pour pouvoir arranger l'immersion du joueur dans cette nouvelle région et donc capter son attention à sa manière, comme ils ont su la capter dans les versions précédentes. Je parle de la météo dans les combats. En gros, en fonction de l'endroit où on combat ou de certaines attaques, une météo peut être mise en place pour altérer les cours du jeu. Ça existait déjà dans la deuxième génération, mais plus timidement, et c'était juste via des attaques et pas assez poussées. Là, des événements extérieurs pouvaient en faire apparaître, que ce soit le lieu où on combat, certains talents ou même le scénario, puisque à un moment, le monde de Hoenn est soumis à une grande sécheresse ou à une grande pluie en fonction de la cartouche que vous avez pris. Il y a en tout 4 climats possibles, soleil, pluie, tempête de sable et grêle, avec chacun des caractéristiques qui leur sont propres. L'autre particularité de cette version est que, en plus de pouvoir influencer directement le climat, certains Pokémon avaient même un talent qui pouvait utiliser ces météos. Une chose dont les combats stratégiques ont beaucoup utilisé. Ne comptez pas le nombre d'équipes utilisant la pluie, il y en a beaucoup trop. Et je parle pas des Pokémon qui sont dans les meilleures tierces uniquement grâce à leur manipulation de ce climat. Et un Pokémon en particulier utilise cela. Un Pokémon qui peut changer de forme en fonction du climat lancé et gagner un type feu, eau ou glace en fonction de celle-ci. Mais tout cela est dû à une chose, il s'agit d'un Pokémon artificiel créé par le centre météorologique de Hoenn pour prédire le climat. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler du Pokémon numéro 351, Morpheo. Donc avec son petit 30 cm pour 800 grammes, ce petit Pokémon voltigeant dans l'air, seul dans sa lignée évolutive, est clairement l'aboutissement de ce qui s'est fait dans les versions de la 3ème génération. En effet, il utilise deux améliorations de celle-ci, il utilise la météo et peut changer de forme. Mais quelles sont ses formes? Elles sont au nombre de 3 en plus de sa forme principale, sa forme pluie, sa forme soleil et sa forme grêle. Quand il y a un grand soleil, il devient une petite boule de feu et gagne le type feu. S'il pleut, il prend la forme d'une goutte et devient de type eau. Enfin, quand il grêle, il prend la forme d'un cumulonimbus et devient de type glace. Par contre, lors d'une tempête de sable, il garde sa forme initiale de petit nuage masqué. En gros, sa forme est changée en fonction de la météo en cours, que ce soit dans le combat comme à l'extérieur. Dans le jeu, il change d'apparence si on va dans un lieu avec un climat bien marqué. Et sur Pokémon Go, on peut le retrouver à l'état sauvage quand il fait super beau, par exemple, dans sa petite tenue d'été. De plus, Morpheo a une petite backstory. En effet, il aurait été créé par le laboratoire météorologique de la route 119 de Hoenn. Et oui, encore un Pokémon artificiel. Il faut savoir qu'il l'aurait synthétisé pour pouvoir mieux prévoir la météo, d'où son talent météo, qui lui permet de changer de forme. C'est plutôt bien raccord du coup, même si franchement, je pense que les météorologues auraient voulu plus d'informations que... Hey, demain il pleut! En tout cas, il a capté l'intérêt de la team Magma et de la team Aqua, en fonction du jeu que vous avez pris, qui veulent l'obtenir pour pouvoir mieux se préparer à la capture de Kyogre ou de Groudon. Enfin, j'imagine. En tous les cas, c'est dans le centre météo qu'on nous donne ce petit Pokémon une fois la team du jeu battue. Et concernant le Morpheo des autres jeux, j'imagine qu'ils en ont fabriqué une très grosse quantité et qu'ils en ont filé aux autres régions pour les expériences. Bon, par contre, ses capacités sont bien évidemment pas exploitables en combat, la faute à des statistiques beaucoup trop faibles. Mais on peut au moins imaginer sa place dans l'univers de Pokémon. Déjà, il est utilisé pour prédire la météo, ça c'est indéniable. Mais au fond, comment ça marche? Voyons les Pokédex. Déjà, on nous parle forcément de son changement d'état avec Pokémon Emerald qui nous dit que les changements climatiques, comme la température ou l'humidité, affecte sa structure cellulaire. L'une ajoute que, comme ses cellules réagissent au moindre changement de température ou d'humidité, il ne contrôle pas forcément ses changements d'apparence. De plus, Diamant et Perle nous racontent que son aspect change avec la météo. On a récemment découvert que ses molécules étaient pareilles à l'eau. Et Ultra Lune ajoute qu'il n'y a pas que son apparence qui change en fonction de la météo, son tempérament aussi. Plus il y a de vent, plus il se montre agressif. Enfin, Ruby nous dit que ce Pokémon a appris à utiliser l'immense pouvoir de la nature pour protéger son petit corps minuscule. Donc, toutes ces entrées nous confirment bien que ces changements de forme sont bien dus à la météo, et tentent de nous donner des explications avec cette histoire de particules d'eau. On nous dit aussi que sa forme physique n'est pas le seul truc qui change chez lui, mais surtout que, à l'instar de chez Nicelle que nous avions vu dans l'épisode 5, ces changements d'état lui servent surtout à s'adapter dans son nouveau milieu. Après, il y a tout de même deux choses qui me taraudent dans tout ça. Déjà, ses entrées de Pokédex ne semblent pas nous dire que c'est un Pokémon artificiel. On nous parle de lui comme si c'était une créature trouvée à l'état sauvage, en fait. Enfin, s'il était effectivement naturel, on saurait avec certitude comment ce machin-là fonctionne. Du coup, c'est étrange qu'on spécule autant. Ou alors, c'est une créature classée secret défense? Et il y a un autre truc qui me pose problème. En fait, pourquoi on parle de lui aujourd'hui dans ce podcast? Un Pokémon qui sert à prédire la météo, c'est plutôt cool, non? Et c'est pas comme un Solordo qui n'est pas bon et n'a pas du tout d'utilité dans Pokémon. Là, c'est vraiment une créature qui a un but concret, donc pourquoi il serait détesté? Eh bien, sa forme. On n'a pas trop parlé de sa forme physique, mais il faut en parler. Donc, à quoi ressemble la forme de base de Morpheo? Un petit nuage gris avec un masque blanc et une petite houppette. Bon, c'est un design très simpliste et participe à croire que plus la série avance, et plus les Pokémon sont simples. Mais franchement, ça va, non? Il y a pire. Ah, il y a encore autre chose? Ah, oui. En fait, sous son énorme tête ronde, il y a deux petites boules. Et en fonction de notre niveau de beaufitude, on pourrait croire que c'est soit des seins, soit des testicules. Et du coup, bah, c'est pas très avantageux, et là on comprend mieux pourquoi il suscite autant la moquerie. Et en fait, dans toutes les autres analyses sur Morpheo, on parle plus de ça que de ses facultés d'adaptation qui sont quand même grave cool. C'est un peu injuste, vous êtes pas d'accord? Mais au fond, est-ce que ces deux boules ont une origine? Genre, pourquoi Game Freak lui a donné un détail aussi tendancieux? Il y a forcément une raison qui justifie tout ça, non? Et puis, est-ce qu'il y a une origine? Alors selon Bulbapédia, le Wikipédia de Pokémon, on dénombre trois origines possibles à Morpheo et à ses changements de forme. Une scientifique, une matérielle et une culturelle. Commençons donc par celle que je trouve finalement la moins crédible, et pour une fois, c'est la culturelle. Et paradoxalement, c'est celle qu'on associe le plus à Morpheo. Il s'agit de petites poupées japonaises qu'on appelle les Telu Telu Bozo. Du coup, les Telu Telu Bozo sont grosso modo des poupées japonaises constituées d'un simple tissu qu'on attache au bord d'une fenêtre pour pouvoir faire fuir la pluie tout en chantant une petite comptine. Et s'il le fait pas, on le menace de le décapiter. Et si vous avez bien suivi la chronique d'ici là, vous avez compris où était le problème avec cette comparaison. Morpheo sert à prédire la météo, pas à l'influencer. Puis même, physiquement, c'est pas du tout la même chose. Un Telu Telu Bozo, c'est un bout de tissu, pas des boules de collées entre elles. Je comprends pas du tout pourquoi on associe ce Pokémon à ce petit fantôme fait main, à part son lien avec la pluie. Et peut-être aussi son design très simpliste aussi, je sais pas. Et puis aussi, un Pokémon qui ressemble plus au Telu Telu Bozo, c'est Polichombre, de la même génération que Morpheo. Lui, son lien avec cette poupée de chiffon est plus marquante. Bref, on peut complètement rayer cette piste. La seconde est déjà plus crédible. Il s'agit des ballons-sondes. En gros, c'est une technologie qu'on pourrait résumer à un ballon, inventé en 1892, qui analyse la pression atmosphérique pour pouvoir décrire la météo en allant tout très haut, jusqu'à 53 km d'altitude. Là, on se rapproche quand même beaucoup plus de notre petit Pokémon. Même fonction, même origine, plus ou moins la même forme, et en plus, on peut retrouver des ballons-sondes un peu partout. Du coup, ça peut expliquer la propagation de Morpheo. Mais il existe tout de même une origine plus crédible, qui sont celles qu'on répète depuis le début de cette analyse, les nuages. Qu'est-ce qu'un nuage? Oui bon, question conne, c'est le truc tout blanc qu'on voit dans le ciel. Mais au fond, c'est quoi concrètement un nuage? Alors c'est littéralement un amas de particules d'eau qui réagissent en fonction de la température et de la pression. Comprendre son élévation dans l'atmosphère, pour donner la pluie, le beau temps, la neige et les gros orages. Là, on a un peu tout. Les nuages ont la même forme que Morpheo, et on retrouve des petites couches blanches dans chacune de ces formes différentes. Il réagit en fonction de la météo, et on retrouve l'une de ses descriptions du Pokédex, à savoir son lien avec les particules d'eau. Donc c'est bon, on a trouvé son origine, non? Et même dans cette origine, on pourrait aller bien plus loin. Imaginez, et si dans le monde de Pokémon, les nuages étaient en réalité des Morpheo? Genre, ce serait pas la météo qui ferait changer Morpheo, mais une colonie de Morpheo qui sont à l'origine de la météo et qui ferait la transition entre pression atmosphérique et climat et précipitation. Ceci pourrait alors expliquer complètement certaines suppositions faites plus haut, du genre Pourquoi, alors qu'on nous dit que c'est un Pokémon créé en laboratoire, on nous parle de lui comme si c'était des créatures comme les autres? La réponse est simple, les météorologues de Pokémon ne l'ont pas créé, ils l'ont apprivoisé. Ils pourraient même être les premiers à l'avoir fait, et ça n'empêche pas d'autres Morpheos de tomber du ciel ailleurs. Je trouve que cette théorie se tient et pourrait confirmer que les Morpheos sont bien des nuages. Mais allons plus loin dans notre imagination. Et si du coup, même dans la vraie vie, chaque couche de nuages serait en réalité une colonie de Morpheos? Ce genre de théorie, on en est assez friand dans le Poké Freak Show. Souvenez-vous des épisodes sur un Solourdeau et Trousselin. Mais ici, on va un peu plus loin. Parce que, pour nos deux Pokémon précédents, on imaginait ça avec des mythologies de leurs cultures respectives. Là, c'est même pas une mythologie, c'est un fait scientifique qui pourrait avoir une explication grâce à ce Pokémon. Et en vrai, je dis ça, mais je suis sûr que j'omets plein de détails scientifiques qui me dépassent. Mais supposons, imaginez, même dans notre ciel, on aurait ce petit Morpheo, et que la pluie et le beau temps seraient dictés par lui, qui se rechargerait de temps en temps en descendant dans les mers, et pourrait gérer la météo depuis les cieux. Cette petite explication, on peut la retrouver dans la mythologie grecque. On parle alors des Néphélés, les nymphes filles d'océan et de Tétis, qui sont justement la réincarnation des nuages. Elles s'élèveraient des flots de l'océan en utilisant des cruches pour pouvoir les renverser depuis le ciel. Même si on n'y est pas encore, on pourrait alors imaginer que les Morpheos seraient des Néphélés modernes qui posséderaient toutes les explications scientifiques réactualisées. On a tout juste ? Est-ce que c'est encore une supposition qui pourrait rendre le monde de Pokémon et le nôtre compatible ? Ce serait cool et assez poétique à la fois. Poétique dans le sens où ça voudrait dire que la pluie, la neige et le beau temps, voire même pourquoi pas la foudre, mais on ne connaît pas toutes les formes de Morpheos j'imagine, viennent de petites créatures dans le ciel qui jouent et voltigent au-dessus de nos têtes. C'est mignon, non ? Bref, je pense qu'on a déjà tout dit sur Morpheo. Cette supposition confirme donc bien d'où il a été tiré, et je pense qu'on peut conclure cet épisode. Pardon ? Ah non, il manque toujours un truc ! On sait toujours pas d'où viennent ces testicules ! Et oui, le fait que ce soit un nuage explique toujours pas cette forme aussi provocatrice. Les deux boules sous sa tête peuvent être assimilées à un nuage, certes, mais je refuse catégoriquement de penser que c'est un hasard et que les graphistes lui ont donné des testicules sans faire exprès. Parce que bon, vous connaissez aussi bien que moi un nuage, ça peut avoir une infinité de formes au point qu'on essaye de reconnaître des trucs dans le ciel. Il n'y avait aucune raison pour qu'il s'arrête sur celle-ci. Il y a une source, c'est sûr. Mais laquelle ? Réfléchissons. Les nuages, c'est blanc. Ils ont comme racine les néphélés qui n'ont pas vraiment de forme. On a aussi parlé des télutélubozu et des ballons-sondes, mais rien n'est lié à cette forme. Donc il faut rester dans les nuages. Les nuages sont constitués d'eau et... Ah mais attendez ! Mais oui, bien sûr, de l'eau ! Morpheo n'est pas constitué d'eau. Morpheo est de l'eau. Comment ça, c'est de l'eau ? Eh bien, regardez bien sa forme. Si on enlève sa houppette et sa queue, c'est une grosse boule avec deux plus petites collées à lui. Ça ne vous rappelle rien ? Ceux qui diront la tête de Mickey ne sont pas si loin que ça. Et oui, en fait, la forme de Morpheo est explicable. C'est une molécule d'eau. Bon, pour les personnes qui ont très peu de notions en chimie, revenons aux bases. Donc, grosso modo, tout est constitué d'atomes. C'est des très petites particules de forme ronde, pouvant avoir plusieurs caractéristiques différentes et peuvent créer n'importe quel objet autour de nous. Pour les joueurs de Minecraft, imaginez qu'un atome c'est un bloc de base. Si tu craftes ensuite ces atomes, tu obtiens des molécules qui sont donc des atomes assemblés et permettent de créer encore plus de trucs. Vous suivez jusque là ? Eh bien l'eau est un ensemble de plusieurs molécules d'un certain type. Et Morpheo a cette forme-ci. En gros, la molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène qui est relativement gros, relativement car on parle quand même de trucs bien plus petits qu'un centième de nanomètre, qui est lui-même un million de fois plus petit qu'un millimètre, avec à ses pattes deux atomes d'hydrogène, qui sont les plus petits atomes connus. Et du coup ça donne la tête de Mickey retournée, et donc la forme de Morpheo. Donc Morpheo est en réalité pas un nuage, mais bien de l'eau. Même dans ses définitions, il est dit qu'il est rempli d'eau. Il est donc constitué de ça et en prend son apparence, un peu comme une molécule d'eau géante. Du coup ça explique une chose. C'est l'origine de ces changements d'état. En gros, Morpheo possède trois formes, en plus de la simple. Sa forme soleil, sa forme pluie, et sa forme grêle. Ne pourrait-on pas du coup assimiler ça à des formes gazeuses, liquides et solides ? Ok, alors pour les personnes qui sont genre vraiment nulles en chimie, sachez que l'eau possède trois états. C'est pas seulement des trucs liquides qui coulent dans votre robinet, ça peut aussi être de la glace, donc solide, et de la vapeur, donc gazeux. et ces états sont déterminés par la pression atmosphérique et la température. Bon, par contre, pourquoi il a quand même un état neutre ? Disons que c'est sa forme transitoire, lorsque les variations ne sont pas trop fortes. Mais tout ça pour dire, les nuages de Hoenn et du monde de Pokémon pourraient ne pas être constitués d'eau, mais de tout petits morpheos. Et en soi, la théorie des nuages proposée plus tôt n'est pas trop incompatible avec celle-ci. Alors de là à dire que tout l'eau de Pokémon est des micro-morpheos, on n'en est pas si loin. Bref, on a trouvé un sens aux transformations de morpheos, et avons expliqué sa forme, mais surtout imaginer comment ces petits Pokémon pouvaient marcher dans l'univers de Pokémon. Et pourquoi pas, peut-être qu'il a aussi un impact dans notre monde à nous, qui sait ? Oui, non, en fait les gens savent. Bref, Morpheo est le Pokémon de la pluie et du beau temps, donc dans un sens, qui peut créer des arcs-en-ciel. Et c'est pour ça qu'on l'aime ! Voilà, un épisode bien plus court que d'habitude pour un petit Pokémon. Tellement court que je vous ai offert une introduction assez massive, donc vous partez pas si perdant que ça. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons nous rattraper dans 15 jours. Car vous savez ce qui se passe dans 15 jours ? Eh oui, le prochain épisode du Poké Freak Show tombe le jour de Noël. Et croyez bien que je vais sauter sur l'occasion pour vous produire un maxi épisode sur un Pokémon que vous devriez déjà connaître. De qui je parle ? Vous verrez bien. Merci en tout cas d'avoir écouté ce nouvel épisode. Le Poké Freak Show est un podcast produit par Radio Kawa, et n'hésitez pas à passer sur le Patreon trouvable sur le site afin de nous soutenir, pouvoir obtenir du matériel de qualité et surtout permettre de faire des émissions en live. Et un Poké Freak Show en live, ça peut donner envie, j'imagine. Bref, on se retrouve à Noël. Ciao! Ludographie comparée, c'est un podcast au concept un peu perché. À chaque épisode, un doctorant en linguistique décortique un élément au sein d'un jeu vidéo afin d'en expliquer la présence dans ledit jeu et son importance pour le média tout entier. Le doctorant en linguistique, c'est Mathieu Gou, et les précédents épisodes de l'émission ont notamment traité de la notion de score dans le premier Megaman, l'esprit de la poursuite dans Super Mario Odyssey, ou encore le rôle de la cigarette dans Metal Gear Solid. Ludographie comparée, c'est environ 30 minutes chaque mois sur Radio Kawa.